Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous continuons notre réflexion sur les pathologies de la représentation. Les apories qui sont liées à la représentation d'un peuple introuvable, nous l'avons montré dans le précédent cours, avaient suscité au XIXe siècle l'émergence d'esquisses de solutions, théoriques ou pratiques, de différentes natures. Sous la forme, par exemple, d'un retour à une conception ancienne de la représentation adossée à une réincorporation du social, puisque la question posée était celle de l'écart croissant entre corps social et corps civique politique. En second lieu, sous les espèces d'une forme d'expression du monde social qui était supposée le constituer en son unité et en sa vérité, mais c'était sous la plume de l'historien, nous l'avons vu, qui s'autoproclamait voix du peuple. En troisième lieu, les tentatives de résoudre l'aporie initiale ont essayé de se faire par le biais d'un type de représentation essentialiste, qui considérait donc une organisation syndicale, en l'occurrence de ce que nous avons présenté la semaine dernière, comme forme vraie d'une profession. Sur le mode, enfin, et ça c'est l'héritage hobbesien, d'une personne fictive, une et indivisible, en l'occurrence de ce que nous avons mentionné, la nation, supposée constituer la figure authentique du corps politique en lieu et place d'un peuple réel insaisissable. Cette dernière notion de peuple, en disant trop ou trop peu, pour reprendre une formulation célèbre, des constituants, lorsqu'ils avaient été chargés de définir leur assemblée. Les éléments de ces différentes tentatives de réponse à l'aporie rousseauiste vont être, d'une certaine façon, retravaillés et radicalisés dans les totalitarismes d'une double façon. D'abord, en substituant la notion d'identité à celle de délégation pour constituer solidement le lien entre représenté et représentant. Une représentation conçue donc sur le mode de l'identification. Notion d'identité qui a pris consistance sensible dans la figure de l'homme-peuple. En supprimant ensuite l'écart du peuple social au peuple corps civique par la production d'un peuple directement unifié dans sa structure sous les espèces d'une homogénéité. Sous l'espèce d'une homogénéité, c'est donc faire exister le peuple au singulier et par là même proposer de résoudre l'aporie de l'écart corps social, corps civique. Ces principes d'identité et d'homogénéité ont fini par englober de fait ceux de représentation essentialiste, d'organes représentatifs, d'incarnation et de réincorporation du social que nous avons rencontrés dans le cours précédent. Et au-delà des distinctions parfois fondamentales qu'il convient d'opérer entre les différentes figures du totalitarisme, le regroupement sous la même bannière d'un certain nombre de régimes se justifie de ce seul point de vue de la communauté des formes au sens des façons qu'ils ont eues de prétendre résoudre les apories de la représentation. Et c'est justement seulement à cette analogie de forme que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Nous allons donc examiner successivement ces deux principes et leurs conditions de formation, en commençant par celui d'homogénéité. Pour comprendre, il faut décrire le contexte qui a permis l'avènement d'un moment totalitaire dans l'Europe du début du XXe siècle. L'avènement du moment totalitaire aurait d'abord été impensable en dehors du contexte de critique de l'individualisme et du libéralisme qui a marqué la fin du XIXe siècle. Cette critique de l'individualisme et du libéralisme avait une double dimension. Sociologique d'abord, elle s'enracinait dans le constat fait par la sociologie naissante que la structure réelle des sociétés ne correspondait pas à la vision véhiculée par la Révolution française et ensuite le libéralisme. Et on sait que dès 1877, un Alfred Espinasse publiait ainsi dans son livre « Des sociétés animales » un texte où il invitait à comprendre les sociétés humaines comme des organismes vivants des réalités collectives complexes et non pas des juxtapositions d'individus souverains dont le commun aurait été produit par le contrat. Et Émile Durkheim dira de ce livre qu'il avait constitué le premier chapitre de la sociologie. Et on sait qu'il construira son œuvre à partir des intuitions et des principes qu'il organisait. Il faut, écrivait Durkheim, que notre société prenne conscience de son unité organique, que l'individu sente cette masse sociale qui l'enveloppe et le pénètre, qu'il la sente toujours présente et agissante, et que ce sentiment règle toujours sa conduite. Ces mots de Durkheim ont été ceux d'une époque et de toute la sociologie naissante, qu'il s'agisse de Scheffel en Allemagne, de Hobson ou de Hobhouse en Angleterre, de Fouillé en France. Ces pères fondateurs de la sociologie en Europe ont pensé de concert l'Europe, la société sous les espèces d'un tout organique. Dès que l'on se plonge précisément dans cette vaste littérature, les différences de sensibilité ou les divergences théoriques entre ces auteurs apparaissent massives. Par exemple, entre les simples usages métaphoriques de l'analogie organiciste et ses interprétations réalistes, il y a par exemple un abîme. Et la notion d'organisme contractuel que développera un Fouillé est bien différente de celle des corps sociaux produites par la sociologie allemande. Mais il s'opérait dans tous les cas une claire rupture avec les visions libérales individualistes antérieures du social. Socialistes de la chair en Allemagne, Fabien et nouveaux libéraux en Grande-Bretagne, républicains solidaristes en France, ces différents courants indissociablement intellectuels et politiques ont convergé à la fin du XIXe siècle pour reformuler en termes voisins la question de la constitution du social. La vision d'un monde composé d'individus souverains et autosuffisants a cédé, avec eux, la place à une approche fondée sur l'idée d'une interdépendance première. L'homme seul n'existait pas, résumait Léon Bourgeois, tandis que Hobhaus, de l'autre côté de la Manche, considérait, je le cite, que chaque individu est constitué par l'atmosphère sociale qui l'entoure. S'imposera simultanément la vision d'une économie fortement socialisée. Rappelons simplement que la notion de socialisation des moyens de production est au cœur de l'approche de Marx et que la vision individualiste libérale du monde apparaissait sous ces deux aspects pour beaucoup n'avoir aucun avenir et on verra se multiplier au tournant du siècle et encore plus dans l'entre-deux-guerres les ouvrages consacrés à la fin du libéralisme ou à la crise du libéralisme. C'est dans cette atmosphère antilibérale que se sont formés les projets totalitaires. Ces derniers n'étaient certes pas la conséquence nécessaire de cette atmosphère, puisque c'est cette même atmosphère qui avait aussi dessiné le paysage social et moral qui était propice à la mise en place d'un nouvel âge à la solidarité en rendant possible, parce que pensable, le nouvelle forme de solidarité liée à l'État-providence. La légitimation d'une socialisation accrue de la redistribution était liée à la vision d'une socialisation accrue du travail et de l'existence des individus. Mais si les totalitarismes ont été de cette époque, ils n'auraient pas pu voir, me semble-t-il, le jour dans un autre contexte que celui-ci, même si ce contexte ne menait pas forcément au totalitarisme. Et dans son principal ouvrage doctrinal, Mussolini proclamait que le fascisme, je le cite, est dans un état d'opposition absolue avec les doctrines libérales et qu'il était foncièrement anti-individualiste. Il y a d'ailleurs un chapitre entier de son ouvrage qui a pour titre « Le fascisme, doctrine et institution » qui est intitulé « Contre les doctrines libérales ». Et si le XIXe siècle a été le siècle de l'individu, libéralisme signifie individualisme, poursuit Mussolini, on peut penser que le siècle actuel sera le siècle collectif. Et dans Mein Kampf, Hitler avait de son côté longuement souligné que la disposition d'esprit qui rejette au second plan l'intérêt de l'individu au profit du maintien de la communauté était particulièrement développée chez les Aryens. Et il voyait justement dans la possibilité d'avoir une faculté civilisatrice particulière des Aryens, ce fait que l'individu s'y effaçait
derrière la communauté plus qu'ailleurs. Et que donc cette analyse était amenée à porter ses fruits dans le contexte du XXe siècle. Pour l'un des pionniers de l'analyse juridique critique du nazisme, René Capitan, la ligne de force de l'idéologie nazie était bien de se poser comme l'antithèse même de l'individualisme. Cet anti-individualisme était d'ailleurs, pour un Mussolini, ce qui faisait la modernité du fascisme. Et c'est autour de ce thème de la conquête de la modernité que le fascisme, en Italie, et l'avant-garde futuriste se retrouveront, célébrant de concert le mouvement ainsi que l'avènement d'un homme nouveau adapté à la société industrielle de masse. Voyez, par exemple, tous les tableaux futuristes qui mettent en scène à la fois cette idée de foule et cette idée de mouvement, un nouveau rapport de l'individu au corps commun. La modernité des totalitarismes était d'ailleurs plus largement reconnue comme une de leurs caractéristiques communes dans les années 1920-1930, que ce soit en matière de régulation économique. Voyez l'explosion des articles qui ont été consacrés en Europe au rôle novateur de la planification dans ces différents pays, ou d'extension du rôle de l'État. Un des ouvrages les plus marquants de la période, « La révolution managériale » de James Burnham, qui est de 1941, allait jusqu'à considérer que le type de pouvoir qui était exercé par les chefs totalitaires faisait d'eux des prototypes des grands managers de l'avenir. Quand on relit aujourd'hui les pages de cette révolution des organisateurs, c'est le titre de The Managerial Revolution, voilà ce qu'il écrivait. Les politiciens modernes, du type qu'on rencontre à présent, en Russie, en Allemagne et dans d'autres pays de régime analogue, ressemblent fort à des directeurs modernes. Ils dirigent les peuples, selon des méthodes analogues à celles qu'emploient les directeurs pour diriger la production. Ils ont des mentalités semblables. Ils utilisent de la même manière les possibilités de la technique. Staline ou Hitler préparent le tour nouveau de leur politique, plus ou moins comme un directeur d'usine prépare la fabrication d'un nouveau modèle. Et Claude Lefort lui-même estimait, dans les années 50, avant qu'il ne formule sa théorie du totalitarisme sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, il parlait du totalitarisme qui s'annonçait aux États-Unis. Dans la mesure, écrivait-il, où le totalitarisme était au plus profond, je le cite, lié à la structure de la production moderne et aux exigences d'intégration sociale qui lui correspondent. Et Mussolini résumait, c'est en dénonçant, je le cite, le fantoche abstrait auquel pensait le libéralisme individualiste que le fascisme est totalitaire. C'est en effet sur cette base qu'il se considérait fondé, affirmé, l'État est la réalité véritable de l'individu. Inscrit dans le contexte de désindividualisation du monde, les totalitarismes l'étaient aussi dans celui d'une certaine dénationalisation du monde. C'est un point sur lequel Hannah Arendt a mis spécialement l'accent dans son ouvrage sur les origines du totalitarisme. Et surtout dans la deuxième partie qui est consacrée à l'impérialisme. Mais pour lire aujourd'hui cette deuxième partie de l'ouvrage de Hannah Arendt, on peut comprendre le mot impérialisme en le traduisant aujourd'hui, disons, par mondialisation. Arendt a mis l'accent dans ce volume sur le problème du vide qui s'était alors creusé en Europe, avec la tendance à l'effritement politique du corps de l'État-nation dans ces années 1884-1914. Ce livre, notait-elle alors, en parlant de son travail, raconte la désintégration de l'État-nation qui se révéla contenir presque tous les éléments nécessaires à la vague suivante des mouvements et des gouvernements totalitaires. La multiplication postérieure des apatrides et des sans-État résultant de la réorganisation de la carte politique européenne après la Première Guerre mondiale, n'avait fait pour Arendt que renforcer le mouvement de détachement du sens commun que l'impérialisme avait déclenché. La multiplication des êtres qu'elle appelait « détachés du monde » était ainsi pour elle le caractère principal de la situation européenne en 1918.
Une telle dénationalisation n'était pas contradictoire avec le mouvement historique précédemment mentionné de désindividualisation. Cette dernière n'avait pas, en effet, encore trouvé son aboutissement. C'est le vide du lien social qui s'était creusé ou qui subsistait encore que viendra combler à sa manière le projet totalitaire. Il le fera en s'attelant à l'édification d'un peuple homogène, d'une société une. Le projet de constituer un peuple un est au cœur de la rhétorique de ces régimes. Et l'œuvre de Carl Schmitt en a témoigné de façon particulièrement éloquente en Allemagne. À l'univers fragmenté et pluraliste dont se satisfaisait et se nourrissait à ses yeux la vision libérale du monde, il n'a ainsi cessé d'opposer la nécessité d'édifier un monde homogène pour donner corps à l'idée de souveraineté du peuple. L'égalité démocratique, écrivait-il dans sa théorie de la Constitution, est essentiellement homogénéité, l'homogénéité d'un peuple. Tandis que la démocratie libérale sanctifiait pour lui d'un même mouvement l'individu autonome et l'humanité diversifiée, il s'agissait de considérer le peuple en sa radicale unité, en sa globalité, comme le seul sujet pertinent du politique. La notion essentielle de la démocratie, écrivait Schmitt toujours dans sa théorie de la Constitution, c'est le peuple et non l'humanité. Si la démocratie doit rester une forme politique, il n'y a que des démocraties de peuple et pas de démocratie de l'humanité. C'est un thème que nous aurons l'occasion de discuter dans le séminaire, puisqu'il sera consacré à la notion de démocratie cosmopolitique. À l'urne électorale qui isole les individus, Carl Schmitt opposait donc, par exemple, logiquement, l'acclamation, dont le plébiscite peut être considéré comme une forme moderne, car l'acclamation réunit et constitue en un cœur commun les individus. Et donc, ce n'est pas le citoyen, mais c'est le peuple en corps qui est pour Schmitt le seul sujet véritable d'une démocratie positivement redéfinie. Le monde soviétique, lui, ne parlait qu'au singulier également, du sujet de la politique. Le peuple, ou surtout la classe ouvrière, n'existait dans les pays communistes que comme des idéotypes, identifiés à leur concept. Immense et irrécusable puissance, autant qu'anonyme et muette, auquel aucune voix singulière ne pouvait oser se mesurer, et qui avait au contraire toute latitude pour renvoyer à leur particularité coupable ceux que leurs seuls interprètes autorisés décidé de bannir du monde commun. Dans un univers où régnait la propriété collective, le peuple était de fait la propriété d'un parti organe. Et le sujet souverain n'était ainsi qu'un objet. On peut rappeler le fameux poème que Brecht a écrit au lendemain de l'écrasement de la Révolution allemande de 1953. Après l'insurrection du 17 juin, écrit Bertolt Brecht, le secrétaire de l'Union des écrivains fit distribuer les tracts dans la Stalinallée. Le peuple, y lisait-on, a par sa faute perdu la confiance du gouvernement. Et ce n'est qu'en redoublant d'efforts qu'il peut la regagner. Ne serait-il donc pas plus simple, alors, pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre ? Le peuple, en effet, était bien la production de l'État. C'est bien en effet le parti qui modelait à sa guise le peuple qu'il entendait gouverner, et c'est lui qui avait la charge de l'élever à la hauteur de son concept. Le fascisme italien pensait également la société contre l'individu. Le fascisme soulignait un de ses principaux théoriciens, Alfredo Rocco, qui était ministre de la Justice et membre du Grand Conseil du fascisme, a une conception organique et historique de la société qui s'oppose à la conception traditionnelle, atomistique et matérialiste de la doctrine du libéralisme. La société, poursuivait-elle, doit être considérée dans la continuité de son existence qui dépasse celle des individus. Les individus sont toujours des éléments transitoires. L'individu, poursuivait-il, ne peut donc, selon la conception fasciste, être considéré comme la fin suprême de la société. La société a des buts propres et immanents de conservation, d'expansion et de perfectionnement
qui sont distincts de celui des individus qui, à un moment donné, la composent. Pour arriver à la réalisation de ses propres fins, la société doit donc se servir des individus comme moyen. À la prédominance de l'individu sur la société, affirmée par la doctrine individualiste, nous devons donc substituer la prédominance de la société par rapport à l'individu. Et il n'en faudra pas plus pour que les adversaires du nouveau pouvoir italien en train de se muer en un régime utilisent l'adjectif totalitaire pour le qualifier. Et le terme de système totalitaire sera même forgé dès 1923 pour suggérer que le modèle politique en train d'émerger dans la péninsule présentait des traits inédits qui invitaient à le distinguer radicalement de toutes les formes précédemment connues de despotisme ou de tyrannie. Et comme c'est souvent le cas, l'expression stigmatisante, dénonciatrice, finira par être revendiquée, c'est souvent le cas, par ceux qu'elle entendait dénoncer. Et on la trouvera fièrement utilisée à partir de ce moment-là, sous la plume ou dans la bouche de Mussolini. Voilà ce qu'il disait dans le discours de conclusion du congrès fasciste à Rome le 22 juin 1925, qui est un congrès qui a une importance particulière. Il dit « Le temps des petits Italiens qui avaient 1000 opinions et n'en avaient pas une est fini. Notre farouche volonté totalitaire deviendra vraiment l'aiguillon et la préoccupation dominante de notre activité. Nous voulons, en somme, rendre fasciste la nation. » C'est le premier texte dans lequel il y a eu la revendication de cette expression totalitaire par le régime. Et la perspective d'une société une avait une double dimension dans le fascisme italien, à la fois corporative et étatique. Le parti établissait le lien entre ces deux éléments. Mussolini célébrait ainsi le syndicalisme corporatiste et fasciste comme instrument d'organisation et d'encadrement du monde du travail, qui permettait, disait-il, de purifier et d'élever les masses. Et ce syndicalisme était, à ses yeux, l'antithèse de la conception atomiste et moléculaire du libéralisme. Ce syndicalisme, assurait-il, était même l'instrument qui permettrait d'enterrer le libéralisme. Et de façon plus large, il y a tout un ensemble de corps intermédiaires qui participeront de ce même objectif. Et l'unité était, en second lieu, garantie aussi par la Constitution de ce que les fascistes italiens ont tout appelé un État-société. D'où l'opposition conséquente, là encore, à toute réduction du peuple à son expression électorale fragmentaire. Le peuple, soulignait Mussolini, n'est ni le nombre, ni la somme des individus formant la majorité. Le peuple est par là opposé à cette forme de démocratie qui assimile le peuple au plus grand nombre d'individus et le rabaisse à ce niveau. Le fascisme est cependant la forme la plus pure de la démocratie, si du moins le peuple est conçu ainsi qu'il doit l'être, sous l'aspect qualitatif et non quantitatif, s'il signifie l'idée la plus puissante parce que la plus morale, la plus cohérente, la plus vraie, qui s'incarne dans le peuple comme conscience et volonté d'un petit nombre, ou même d'un seul, tel un idéal qui tend à se réaliser dans la conscience et dans la volonté de tous. Si le peuple, en un mot, disait-il, est une multitude unifiée par une idée ou par une volonté qui est d'exister de manière puissante. Le peuple social ou le peuple réel était ainsi, pour lui, appelé à s'effacer derrière une conception métaphysique de la nation, pour reprendre l'expression d'un juriste italien de l'époque, aux formulations d'ailleurs étrangement proches de celles d'un Sieyès. À la différence des modèles nazis et soviétiques, il n'y avait pas d'appréhension substantielle du peuple comme race ou comme classe dans le fascisme italien. C'est l'État qui lui donnait forme. Un État contrôlant la vie sociale et intégrant tous les individus en son sein. Mussolini notait ainsi « Il n'y a pas un Italien qui ne veuille être une molécule vivante de ce grand et immense organisme vivant qu'est l'État national corporatiste fasciste. »
Et cet État fasciste était célébré dans des termes quasi hegeliens. Je cite des expressions fameuses du régime comme volonté éthique universelle, comme force spirituelle, comme forme qui pénètre la volonté comme l'intelligence. Mais cet État, c'était la particularité du fascisme italien, était aussi appréhendé par les turiféraires du régime dans une perspective historique qui mettait l'accent sur la spécificité du déficit italien en matière d'organisation publique. Si l'État libéral-démocratique, disaient les théoriciens du régime, avait partout en Europe réduit ses ambitions, se limitant à des fonctions de maintien de l'ordre, de garantie des libertés individuelles, mais non plus en organisation du corps collectif, s'il négligeait le rôle d'instituteur de la société et de régulateur de l'économie, ce libéralisme, estimaient les théoriciens du fascisme, n'avait pas pour autant, dans certains pays, réussi à liquider tous les héritages. En France, par exemple, disait-il, il subsistait quelque chose du jacobinisme ou du colbertisme. Dans les pays anglo-saxons, il y avait tout un ensemble de correctifs, disait-il, par exemple, la puissance de l'orgueil national dans certains cas, la persistance d'une rigoureuse éducation morale qui apprenait aux individus à se soumettre à des obligations collectives. Il y avait donc ces souvenirs historiques, ces correctifs qui faisaient que la marche de l'individualisme moderne avait été ralentie dans certains pays, alors qu'en Italie, elle ne l'avait pas été. Et donc, il y avait une sorte d'absence native de cet État qu'il s'agissait, et de sens du collectif, qu'il s'agissait spécialement de compenser. Puisqu'aucun de ces correctifs n'avait en effet marqué l'histoire italienne, l'État ayant fait l'objet, dans le pays, d'une suspicion permanente, notamment parce qu'une autorité publique forte avait longtemps, dans la péninsule, été assimilée à un instrument de l'oppression étrangère. D'où, pour les fascistes italiens, l'importance spécialement impérative de construire un État fort. Il en ira différemment dans les autres cas. Pour Carl Schmitt et les juristes du régime nazi, quant à eux, l'homogénéité du peuple était bien la condition requise pour produire, selon la formule de Schmitt, une identité démocratique entre les gouvernants et les gouvernés. Comment produire cette identité démocratique entre gouvernants et gouvernés ? Sur un mode substantiel, expliquait Schmitt, en précipitant ce réquisite d'homogénéité et d'unité sous les espèces de la race. Sans le principe de l'identité raciale, notait abruptement Schmitt, l'État national-socialiste ne pourrait pas exister. Et l'on ne pourrait pas penser sa vie juridique même. La race était en effet censée, dans ce cas, tout simplifier. Elle était une métaphore terriblement efficace parce que présumée, ancrée dans la nature de l'unité sociale. En elle était supposée exprimer avec évidence l'homogénéité recherchée du peuple. Le national-socialisme, argumentait encore Schmitt, ne pense ni par abstraction, ni par stéréotype. Il protège et prend soin de chaque véritable substance du peuple, là où il la rencontre, dans l'espace naturel, dans la race ou dans l'État. Hitler avait, dès 1924, fait la théorie de l'État raciste dans Mein Kampf, appelant à former une race selon les règles de l'eugénisme. Il appelait notamment à mettre hors d'état d'engendrer les individus, je le cite, dégénérés physiquement ou souffrant de maladies mentales. Et il appelait aussi à l'organisation de commissions de race pour obtenir, disait-il, une plus grande pureté de la race aryenne et ainsi faire advenir un peuple plus fort. Il écrivait « Il appartiendra aux conceptions racistes mises en œuvre dans l'État raciste, de faire naître cet âge meilleur. Les hommes ne s'attacheront plus alors à améliorer par l'élevage les espèces chevalines, canines ou félines. Ils chercheront à améliorer la race humaine. » Le projet eugéniste ne lui était cependant pas propre alors. On le trouvait défendu dans de nombreux milieux socialistes de l'époque, mais c'était dans une perspective essentiellement hygiéniste. La spécificité de l'eugénisme nazi
et qu'il n'a été que très partiellement fondé sur des objets relevant de la santé publique, même si Mein Kampf met fortement l'accent sur des éléments comme l'éducation physique ou même des sports comme la boxe qui sont censés participer à une éducation de la volonté et de l'esprit de décision, je cite Hitler. Mais cet eugénisme a surtout poursuivi un objectif purement racial, considérant que c'est dans le sang, je le cite toujours, dans le sang seul que réside la force ou la faiblesse de l'homme. Ce ne sont pas donc tant des médecins, même s'il y en aura, que des idéologues ou des pseudo-savants qui vont être mobilisés dans l'entreprise eugéniste nazie. Et leur premier auteur de référence sur le sujet sera d'ailleurs significativement Vacher de la Pouge. Vacher de la Pouge, un Français de Montpellier, qui est d'abord un juriste et qui s'est progressivement proclamé anthropologue et qui a publié deux ouvrages qui seront la Bible, en quelque sorte, des racistes de l'époque, « Les sélections sociales » en 1896 et « L'Arien, son rôle social » en 1899. Alors qu'il avait été très rapidement déconsidéré en France, scientifiquement, ses ouvrages de Lapouge auront un très fort retentissement en Allemagne, où il sera souvent cité comme une référence essentielle par les nazis. D'où la centralité de l'antisémitisme dans cette perspective. L'antisémitisme, exprimé en effet chez eux, de la façon la plus tangible et brutale qui soit, le projet d'établir l'unité organique du peuple dans une nature biologisée et racialisée. Hans Helmut Dietze, un autre grand théoricien du régime, à côté de Carl Schmitt, prétendait ainsi fonder ce qu'il appelait un droit naturel organique, défini par opposition au droit naturel individualiste. Seul, en effet, un droit naturel organique peut fonder juridiquement, disait-il, les lois anti-juives. Et il poursuivait, d'instinct, l'animal se protège du parasite et des races étrangères. Seulement des parasites, il y en a aussi dans la vie humaine. La répulsion des Allemands envers la race juive se vivifie donc toujours davantage. Et le droit naturel de la communauté allemande interdit donc pour cela le mariage entre personnes de sang allemand et juif. Et c'est évidemment sur les mêmes bases du droit naturel organique que sera ensuite pensée ou sera rendue pensable la Shoah. Le juif est en effet assimilé par les nazis à l'individu libéral moderne, désincarné et déraciné, sans attache auquel il convenait de donner congé. L'antisémitisme avait de la sorte une dimension proprement politique et intellectuelle inédite, qui allait bien au-delà de ces manifestations viscérales, pourtant aussi entretenues par les nazis, qui exacerbaient d'antiques préjugés. Et un Carl Schmitt pouvait ainsi organiser sans sourciller en 1936, un colloque qui avait pour thème « La science du droit contre l'esprit juif ». C'est Hannah Arendt qui a aussi très bien montré comment ce nouvel antisémitisme que radicaliseront les nazis avait fait son apparition dans l'Europe de la fin du XIXe siècle comme une réponse, je la cite, « à la maladie du sentiment national et à la crise du rapport entre les groupes liée à une tendance plus forte à l'assimilation ». L'antisémitisme moderne, a écrit Hannah Arendt, prit de l'ampleur à mesure que le nationalisme traditionnel déclinait. Elle inversait ainsi la relation de causalité souvent établie et admise entre les deux éléments. Ce qu'on pourrait appeler un nationalisme d'exclusion, celui dont Barrès s'est établi en France comme l'un des premiers champions, alors de fait succédé dans bien des pays au nationalisme d'inclusion, le nationalisme républicain et progressiste traditionnel, celui d'une citoyenneté intégratrice sur tous les plans, citoyenneté mise à mal par les transformations du monde capitaliste. On a aussi d'ailleurs parlé à ce propos, c'est une expression qu'on trouve souvent sous la plume d'Arendt, d'antisémitisme social, faisant des juifs la cause de l'aggravation de la question sociale. Anticapitalisme et antisémitisme se rejoignant ainsi, ce qui était évidemment un des leitmotifs de tous les milieux barésiens de l'époque. Il faut d'ailleurs se souvenir que le livre d'Alphonse Toussenel, « Les Juifs rois de l'époque, histoire de la féodalité financière », qui était un livre publié dans les milieux fourriéristes d'ailleurs, en 1845, a été republié de façon
permanente à la fin du XIXe siècle. Et on peut dire que cet antisémitisme social qui faisait des Juifs la cause de l'aggravation de la question sociale a joué un rôle presque fondateur, pourrait-on dire, dans l'histoire de l'antisémitisme en partant justement de la France. Et Barrès a écrit dans ces termes-là qu'il fallait pour cela constituer l'antisémitisme en idée force, je le cite, de tout parti de réconciliation nationale. Et c'est en commentant ces phrases de Barrès que Hannah Arendt pourra justement estimer, à mon avis, que c'est dans cette mesure que c'est en France que s'est produite la première et véritable répétition générale de l'antisémitisme moderne. La fonction fondatrice de l'antisémitisme dans la construction du national-socialisme a reproduit sur ce point, en sa spécificité bien sûr, le modèle général de constitution du racisme à l'époque démocratique. Rappelons-en brièvement la spécificité. Ce racisme à l'âge démocratique s'est d'abord défini par une variable de contexte, une situation de la réduction de la distance entre groupes auparavant considérés comme radicalement séparés. C'est en voyage en Amérique que Tocqueville avait suggéré le fonctionnement de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'économie de la séparation dans l'Amérique qu'il visitait dans les années 1830. Une économie de la séparation en matière de rapport entre les Blancs et les Noirs, comme si fonctionnait, expliquait-il, une sorte de jeu à somme nulle entre les deux variables de la barrière légale et de la barrière des mœurs. Il avait en effet été frappé de voir que le racisme lui semblait plus fort au nord, où il n'y avait pas l'esclavage, qu'au sud, où il y avait l'esclavage. Il expliquait ainsi, je le cite, « Le préjugé de race est plus fort dans les États qui ont aboli l'esclavage que dans ceux où l'esclavage existe encore. Et nulle part, il ne se montre aussi intolérant que dans les États où la servitude a toujours été inconnue. C'est ainsi qu'aux États-Unis, dit-il, le préjugé qui repousse les nègres semble croître à proportion que les nègres cessent d'être des esclaves et que l'inégalité se grave dans les mœurs à mesure qu'elle s'efface dans les lois. On peut commenter en disant que dans le Sud, l'esclavage avait effectivement creusé un tel abîme entre les Noirs et les Blancs que ces derniers ne pouvaient voir une menace dans le fait du voisinage. Il n'y avait dans ce cas aucune correspondance entre l'idée d'égalité et celle de proximité. Les deux types de relations étaient alors totalement dissociés. Il n'y avait pas de superposition entre la loi et les mœurs. D'où la dualité possible du style de ces relations. La férocité de la législation pouvait y coexister avec une certaine bonhomie des rapports quotidiens. Il en allait tout différemment au Nord. Le rapport social s'y inscrivait là sur un registre unique. Au Sud, résumé en ce sens l'auteur de la démocratie en Amérique, le maître ne craint pas d'élever jusqu'à lui son esclave, parce qu'il sait qu'il pourra toujours, s'il le veut, le rejeter dans la poussière. Au Nord, le blanc n'aperçoit plus distinctement la barrière qui doit le séparer d'une race avilie. Et il s'éloigne du nègre avec d'autant plus de soin qu'il craint d'arriver un jour à se confondre avec lui. C'est dans les mêmes termes que, dans un ouvrage célèbre, Woodward a interprété la ségrégation mise en place à la fin du XIXe siècle comme une sorte de rétablissement, déplacement d'un ancien mode de différenciation déconstruit par l'émancipation des esclaves dans le Sud. Le développement de la ségrégation, 30 ans après la fin de la guerre de sécession, et donc l'octroi du droit de vote aux Noirs, avait en effet bien participé du mécanisme mis en lumière par Tocqueville. Et c'est dans un contexte de crise économique que des leaders conservateurs du Sud avaient alors cherché à substituer un sentiment de valorisation raciale à une peur de déclassement social. Et c'est ce rapport entre le social et la peur du déclassement et la valorisation de la distinction raciale qui sera fondamentale. Sur ce terrain aussi avait donc joué une arithmétique de la distinction de la similarité, articulant les deux champs de l'économie et de la race. La séparation exacerbée des Noirs et des Blancs avait permis à ces derniers, les Blancs, d'éprouver une forme d'identité qui était supposée
leur rendent moins sensibles les inégalités économiques qui les divisaient par ailleurs. L'identité raciale s'était donc, en Amérique, substituée à l'égalité sociale pour produire un sentiment de similarité et d'homogénéité dans l'univers de ces Blancs. Plusieurs auteurs ont depuis souligné que le racisme avait pour cela joué un rôle déterminant dans la démocratie américaine pour structurer l'imaginaire égalitaire des Blancs. Dans un monde où se développaient les inégalités sociales et économiques, la perception de celles-ci était en effet complètement modifiée par l'exacerbation du sens de la similarité en termes de couleur de peau. Les Blancs pouvaient avoir le sentiment de s'élever solidairement en méprisant de concert un groupe jugé inférieur, groupe dont les contours pouvaient être physiquement immédiatement appréhendés. Et c'est pour cela que l'érection de la blancheur, whiteness, en catégorie centrale avait alors permis de secondariser les autres représentations du monde social. Il y a donc eu une spécificité de ce racisme. Il n'a pas été fondé simplement sur le sentiment d'une hostilité, d'une étrangeté ou d'une différence problématique ou menaçante, comme l'était au XVIIIe siècle le rapport au, entre guillemets, au sauvage dans le monde européen. Ce racisme a appartenu en propre à l'âge démocratique. La croissance de l'idéologie raciste, a écrit une des meilleures commentatrices sur le sujet, Colette Guillaumin, dépend en fait étroitement des valeurs égalitaires. Elle est une réponse à une pétition d'égalité non satisfaite. Et le propre d'un tel effet d'égalisation du groupe racisant est donc de produire une égalité de corps. Il ne s'agit pas d'une égalité de type démocratique, car une égalité démocratique implique toujours la détermination de normes de justice entre individus, alors qu'une égalité de corps, qui est de type aristocratique, la constitue à l'intérieur d'un, par, on peut dire un phénomène d'intégration à l'intérieur d'un ensemble. C'est ce qu'avait très bien perçu Beaumont, le compagnon de voyage de Tocqueville en Amérique. Il disait la chose suivante dans son livre « Marie ou l'esclavage ». Comme l'existence d'une population esclave établit une classe inférieure, tous les Blancs du Sud se considèrent comme formant une classe privilégiée. La couleur blanche est regardée dans le Sud comme une véritable noblesse, et les Blancs se traitent donc entre eux avec d'autant plus d'égard et de bienveillance qu'ils se trouvent à côté d'eux, des hommes auxquels ils n'accordent que du mépris. Il s'introduit donc ainsi dans les mœurs du Sud quelque chose d'aristocratique. L'aristocratie avait d'ailleurs déjà noté Rousseau en ce sens, n'admet que des droits de corps et non des droits individuels. Et plus on descendait vers le bas de l'échelle sociale chez les Blancs du Sud, plus fort était ainsi le souci de maintenir les Noirs à l'écart, autant que dans une position d'infériorité. La peur du déclassement qui hantait socialement ces petits Blancs à cause de leur situation économique défavorisée était surmontée sur ce mode. Ce détour par l'Amérique est important car il suffirait de remplacer les termes pour comprendre la nature de l'antisémitisme et la fonction de l'antisémitisme en Allemagne. Et permet bien de l'analyser et même dans le langage. On voit que la dimension aristocratique en Allemagne était donnée par l'idée d'une race des seigneurs par rapport aux autres. Et c'est dans une perspective identique à celle que Tocqueville et Beaumont ont développé qu'Hannah Arendt a appréhendé justement la question de l'antisémitisme en Allemagne. Elle a fortement souligné, dans la perspective ouverte par ces deux auteurs, que la discrimination s'était paradoxalement renforcée au fur et à mesure que l'égalité politique était accordée aux Juifs et qu'ils étaient en voie d'assimilation. Paradoxalement, car on pourrait en effet estimer a priori qu'il y a une contradiction entre le fait d'une proximité plus grande et la pulsion de séparation-stigmatisation. Or, Arendt, comme Tocqueville, a bien mis en lumière la logique qui lie les deux faits, le rejet des uns devenant la condition de réunion des autres dans une société dans laquelle les appartenances s'étaient relâchées. C'est par ce mécanisme que l'idée d'homogénéité raciale a été précipitée et radicalisée à l'extrême dans l'Allemagne nazie. Il y a eu un autre mode de production de l'homogénéité
c'est celui de l'homogénéité par la lutte contre l'ennemi intérieur, celle que l'on voit dans le monde soviétique. Cette perspective d'édifier une société une et homogène a également été au cœur de l'utopie communiste. Mais elle n'a pas seulement, dans ce cas, été invoquée sous les espèces d'un lointain horizon régulateur, celui de l'avènement d'une société sans classe. Elle a aussi été comprise comme un impératif politique, celui de la constitution d'une société unifiée dans le combat pour la réalisation de ses objectifs. C'est une unité de combat, une homogénéité de combat qui vient avant l'homogénéité de la société communiste réalisée. Société dont la mobilisation sans faille était requise pour venir à bout de toutes les forces réactionnaires estimées liées contre elle. D'où la stigmatisation des ennemis du peuple de toute nature, tôt pratiquée par Lénine comme l'un des ressorts essentiels de la politique bolchévique. Les purges, les procès et les camps s'imposant comme les instruments nécessaires de la mise en conformité du monde réel à sa vérité historique et théorique. D'où aussi l'usage très courant dans la littérature soviétique des années 1920, l'usage très courant des métaphores d'hygiène sociale ou de prophylaxie sociale. C'est d'ailleurs un thème sur lequel beaucoup de documents ont été amassés par Solzhenitsyn dans le premier volume de l'archipel du Goulag. Et on voit d'ailleurs dans le vocabulaire même de Lénine les catégories d'insectes nuisibles, les catégories de parasites, la nécessité de nettoyer la terre russe sont des expressions que l'on trouve souvent sous sa plume de 1917 à sa mort en 1923. D'où aussi l'évidence des déportations et des massacres pour éradiquer du pays les individus et les groupes qui faisaient obstacle à la réalisation d'un monde jugé uni et cohérent. D'où encore la nécessité de construire la vie politique autour d'une chasse permanente aux espions, aux traîtres, aux saboteurs, dissimulés dans le parti et la société. L'autre avait en urne cette figure du contre-révolutionnaire objectif, qu'il fallait sans relâche débusquer et éliminer. De fait, dans une unité de fer ou de façon instrumentale. Il n'y avait pas de dimension substantielle dans cette vision de l'homogénéité, mais elle était fondée sur une vision du combat politique. L'idée même d'une opposition ne pouvait en effet être conçue. De même que la société future était appelée à être une et homogène, le parti présent ne pouvait que former un bloc lui-même sans faille. Tout écart ne pouvait procéder qu'une intention suspecte et l'unanimité ne pouvait être que la règle de fonctionnement. Unanimité qui ne résultait évidemment pas d'un accord des opinions, mais qui trouvait son origine dans une compréhension jugée scientifique de l'état de la société, des conditions d'organisation de son devenir et de la situation du monde. La lointaine perspective communiste d'une société libérée du besoin, dans laquelle les potentialités de chacun pourraient s'épanouir, nécessitait ainsi la mise en place de la discipline la plus impitoyable pour purger le corps social de tout ce qui était censé le menacer. Et cette vision d'une unité politique de combat se liait aussi dans ce monde à la vision d'une société essentiellement non divisée dès la période d'édification du socialisme, dès que la période d'exploitation de l'homme par l'homme avait été bannie. Il n'y avait donc dans ce cas plus de conflits d'intérêts possibles, plus d'écart envisageable surtout entre la vie des individus et l'intérêt social général. Toute division ne pouvait en conséquence qu'avoir une origine structurellement perverse qu'il s'agissait de réprimer. On retrouvera aussi cette obsession de combattre l'ennemi intérieur dans le nazisme, mais à un moindre degré, puisque dans le monde nazi, il n'avait rien de caché. Le juif était bien visible. Le problème n'était pas de le débusquer, alors qu'il y avait dans le monde soviétique la nécessité d'une chasse permanente, mais de se préparer à s'en débarrasser. Le champ du politique était certes bien conçu, c'est la grande théorie de Schmitt, comme celui de la distinction de l'ami et de l'ennemi. Mais cette opposition de l'ami et de l'ennemi a surtout été appliquée en Allemagne au rapport à l'ennemi extérieur. Le mythe arien de la grande race dominatrice s'est ainsi déployé dans ces deux dimensions. À l'obsession d'une purification de la race, s'est superposée une dynamique de mobilisation de la nation pour sa grandeur et son élan vital
s'affirme dans une politique de conquête. Et c'est pour cela qu'un primat de la politique extérieure avait de fait été affirmé dans l'Allemagne nazie. Le juriste que j'ai cité tout à l'heure écrivait « Le véritable art politique consiste à dominer les lois de la vie et à les appliquer en sorte que les forces élémentaires de l'organisme national puissent agir avec le maximum de succès sur le champ international. » Le champ international étant en effet celui de la mise à l'épreuve et de la constitution véritable de l'homogénéité. C'était la politique d'expression d'une unité et d'une vitalité qui ne pouvait donc être que conquérante. Peut-on comparer cette notion d'homogénéité avec celle de communalité dans le monde démocratique ? Il me semble très important de le faire. La démocratie ne se sépare pas d'une interrogation permanente sur la distribution des richesses et la légitimité des distinctions sociales. Elle se lie ainsi à un débat qu'on ne peut jamais définitivement conclure sur le sens et les formes de la division sociale. C'est ainsi la production toujours litigieuse des règles du commun qui constitue son objet même. S'oppose de la sorte, pourrait-on dire, l'idée d'homogénéité qui renvoie au présupposé d'une essence partagée et qui constitue le social sous les seules espèces de l'identité collective, et l'idée de communalité qu'il appréhende comme mise en forme d'un monde d'irréductible singularité. Et c'est une polémique allemande de la fin des années 1920 entre Carl Schmitt et Hermann Heller, l'auteur de Die Souveränität, un des grands philosophes de la période, qui a formulé pour la première fois les termes de cette distinction, de distinguer donc l'homogénéité nazie et l'homogénéité démocratique. Socialiste, membre du SPD pendant la République de Weimar, Heller avait vivement contesté l'approche substantialiste du politique de Schmitt à l'époque, même s'il partageait avec lui bien des critiques adressées au régime parlementaire. Mais il invitait à comprendre la notion d'homogénéité dans des termes complètement différents de ceux de Schmitt. Il la concevait comme détermination d'un certain nombre de conditions sociales minimales nécessaires pour permettre l'intégration de tous dans un même monde. Le danger de l'époque résidait à cet égard pour lui dans le fait d'un prolétariat relégué à la lisière d'un monde commun, relégation qui était indissociablement économique et morale, de telle sorte, écrivait-il, que le bourgeois ne lui apparaissait plus comme un être de même nature que lui, ce qui l'entraînait à ne voir d'avenir que dans un renversement de l'ordre existant des choses, en opposant son idéal de dictature prolétarienne à la dictature de classe de l'État bourgeois. En parlant d'homogénéité sociale, Hermann Heller voulait ainsi surtout souligner la menace que les disparités économiques existantes faisaient peser sur la démocratie. Il appelait donc à les réduire pour que puissent exister dans le pays les éléments d'une culture commune nécessaire au partage par tous d'une même communauté. Le problème est en effet à ses yeux que plus rien ne canalisait les différences dans les conditions existantes du conflit de classe dans l'Allemagne du milieu des années 20, empêchant toute une partie de la population de se reconnaître membre de la communauté politique. La pluralité constitutive de la démocratie n'était de cette façon, à ses yeux, plus régulée. Et si à un moment la langue et la culture avaient pu jouer un rôle d'atténuation des différences à une certaine époque en Europe, de même qu'une certaine égalité des conditions avait joué un rôle d'atténuation des différences dans l'Amérique du début du XIXe siècle, c'était pour lui dans l'ordre économique qu'il fallait désormais considérer l'obstacle contemporain le plus dirimant à la constitution d'un nous commun. Les inégalités, en effet, disait-il, se sont tellement accentuées avec l'avènement du prolétariat moderne qu'elles ne pouvaient plus trouver de contrepoids. Mais Hermann Heller rejetait en même temps l'illusion d'une société uniquement cimentée par l'identité telle que l'envisageait Schmitt. Il repoussait comme utopique et menaçante l'idée d'une société parfaitement unifiée sur ce mode. Il vaut la peine de le citer sur ce point. « L'homogénéité sociale, écrivait Heller, ne peut jamais vouloir signifier l'abolition de la structure nécessairement antagoniste de la société. Une communauté pacifique, sans opposition, une société sans domination peuvent avoir un sens à titre de promesse prophétique, mais en tant qu'objectif politique. Une telle transposition ici-bas de la communion des saints continue une dénaturalisation tant de la sphère religieuse que de la sphère politique. L'homogénéité sociale est toujours une situation sociale et psychologique dans laquelle les oppositions et les luttes d'intérêts, qui existent toujours, apparaissent liées les unes et les autres par une conscience et un sentiment du nous, par une volonté communautaire qui s'actualise. C'était bien d'envisager le commun d'une toute autre façon que Schmitt. À la résurgence de l'idée archaïque d'unanimité liée à sa conception de l'homogénéité, Heller opposait pour cela la perspective d'une société capable de traiter lucidement ses divisions. Nous pourrions dire aujourd'hui que le moment totalitaire a parié derrière nous, non pas au sens où sont devenus impossibles des régimes qui bafouent les plus élémentaires droits de l'homme et qui imposent dans la violence leur pouvoir, mais il est derrière nous au sens où la vision d'une société préexistante aux individus et les englobant pour réaliser leur émancipation a pris congé. L'attachement à la singularité des individus semble maintenant irréversible, mais n'en renaît pas moins régulièrement de façon inquiétante la tentation de substituer l'homogénéité à la communalité et de faire de l'identité la clé de la construction d'un monde commun. Certains débats intellectuels récents autour des rapports de la confiance et de l'homogénéité en témoignent. Je fais référence là au travail récent de Putnam, celui qui a écrit « Bowling Alone » sur le rapport entre solidarité et homogénéité dans les pays scandinaves. Et on peut dire que cette question, justement, des rapports entre homogénéité et communalité est aujourd'hui au centre de bien des débats politiques dans le monde et en Europe tout particulièrement. Et qu'il y a toujours des formes d'approche substantialiste du social qui sont présentes dans le débat pour remédier à la mal-représentation contemporaine. Si donc il y a eu des figures exacerbées de cette forme politique, qui était celle de l'homogénéité, cette tentation et cette attirance pour la forme de l'homogénéité, elle n'a pas complètement disparu. Je vous remercie. Donc, on s'arrête 2-3 minutes, et dans la séance suivante, nous passerons de l'analyse de l'homogénéité à l'analyse de l'incarnation, la question de l'homme-peuple.